Donc je me suis rendu compte que j'avais pas mis de date dans mon titre. Donc on va aller à peu près du milieu du 19e siècle au début des années 80. Donc une réflexion sur la longue durée du rapport des Casamançais à l'école et de leur rapport à l'État. Donc rapidement, pour vous situer, j'ai mis une carte du Sénégal. La Casamance, c'est une région historique qui n'existe plus comme telle aujourd'hui. Elle est située au sud de la Gambie et au nord de la Guinée-Bissau. Et elle est composée aujourd'hui donc de trois régions administratives qui sont la région de Ziguinchor. Faudrait peut-être que je montre. Celles qui sont donc au sud de la Gambie, Ziguinchor, Sédiou et Kolda. Et moi, je vais essentiellement vous parler de la région de Ziguinchor et, disons par facilité de langage, souvent c'est cette zone-là qu'on qualifie de Casamance. Cette région a une place spécifique dans l'histoire et l'espace colonial et postcolonial sénégalais. Et c'est au nom de cette spécificité qu'est revendiquée l'indépendance de la Casamance par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le MFDC, depuis 1983. La région, comme l'avait noté Vincent Fouché, a aussi une particularité. En fait, c'est si on superpose la carte scolaire et la carte du conflit, elles sont à peu près similaires. Et aujourd'hui, et donc moi j'ai établi à peu près depuis les années 30, c'est la région la plus scolarisée du Sénégal. Et on a un taux brut de scolarisation qui atteignait 116,1% en 2014, donc qui est toujours le plus élevé du Sénégal. Donc ce qui peut sembler être, pour comprendre ce qui peut sembler être un paradoxe, il est nécessaire de revenir sur l'histoire longue de l'école en Casamance pour saisir comment s'articule le rapport des populations casamançaises à l'école et leur rapport à l'État colonial et postcolonial. Donc, dans une première partie, je vais commencer par l'institution, le processus de scolarisation en Casamance, donc qui commence au milieu du 19e siècle, avec la fondation de la première école française en 1860 à Sédiou. Sédiou, qui a été construite en fait dans le fort militaire, ce qui symbolise la continuation de la conquête militaire parce que Georges Hardy, le premier inspecteur de l'enseignement en AOF, appellera plus tard la conquête morale par l'école. Et cette région, donc la Casamance, a été aussi la région que l'administration coloniale a mis le plus de temps à pacifier, donc j'utilise des guillemets, où elle a eu du mal à s'établir, et donc elle va largement utiliser l'école pour s'y implanter. On a un deuxième facteur qui est important et qui explique ce succès, disons, précoce de l'école, c'est le rôle des missions chrétiennes, qui a été très important depuis le dernier quart à peu près du 19e siècle. La Casamance était moins islamisée que le nord du Sénégal et une autre forme aussi d'islam que dans le nord du Sénégal, ce qui le rapport entre chrétiens et musulmans s'est inversé dans l'entre-deux-guerres et on a eu une islamisation plus importante à partir de l'entre-deux-guerres, mais au 19e siècle, c'est une des régions les moins islamisées du Sénégal. Et donc, pour les missionnaires protestants et catholiques, elle a suscité de grands espoirs et elles ont implanté des missions, d'abord dans les principales localités, donc les centres politiques où s'était établie l'autorité française, et donc des missions qui comportaient des écoles. Au 19e siècle, l'essentiel des écoles qui sont implantées en Casamance sont essentiellement des écoles missionnaires protestantes, mais il y a une rapide expérience au milieu des années 1860 et essentiellement catholiques, et ce sont les missionnaires de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. En 1903, l'enseignement est organisé pour la première fois en Afrique occidentale française et en 1905, il est laïcisé, donc on a un recul de l'enseignement missionnaire, bien que les missionnaires restent assez présents. Ce qu'on peut dire, c'est que la géographie des écoles, elle recoupe la carte de la présence coloniale française en Casamance. Donc là, on a les villes principales. Donc d'abord, là, on ne voit pas. pas Karaban, Ziguinchor, Sédiou, donc qui sont les trois principales villes où se sont établies, où s'est établie l'administration coloniale. Et les écoles sont de ces localités sont d'abord essentiellement fréquentées, par les élites socio-économiques locales, donc les commerçants, les fonctionnaires de l'administration coloniale qui viennent généralement du nord du Sénégal, ou encore l'élite urbaine créole de Ziguinchor. Et elles sont encore marginalement fréquentées par les populations rurales. Il y a aussi un autre public qui est important à ce moment-là, ce sont les fils de chefs et les fils de notables qui sont, pour lesquels les places sont prioritairement réservées. Et puisque numériquement ils représentent une minorité, et par souci d'efficacité et de rentabilité, l'école accueillait aussi les enfants d'autres catégories sociales. Et c'est ainsi que progressivement, en fait, l'école s'est ouverte aux différents groupes sociaux qui l'ont investie à leur rythme. D'abord ceux qui exerçaient une activité professionnelle en contact avec les colonisateurs, et ensuite, progressivement, d'autres groupes. On a une première rupture après la Première Guerre mondiale, et surtout à partir des années 20, où, à un moment où la Casamance est considérée comme à nouveau entre guillemets pacifiée, qui a permis la construction de routes, favorisé le développement du commerce, la diffusion de nouveaux codes socio-culturels, notamment par ceux qu'on appelle les populations mobiles, donc par exemple les tirailleurs, ou encore les missionnaires, qui jouent un rôle social fondamental, notamment dans la scolarisation. Les populations témoignent d'un intérêt nouveau pour l'école, et on a donc les écoles qui sont ouvertes en orange, mais là je vois qu'on, je suis pas sûre qu'on fasse bien la distinction entre les couleurs. Ok. Ah, c'est un peu mieux. Ah, merci. Donc, à partir du début des années 20, dans ce contexte post-Première Guerre mondiale, on a de nouvelles demandes d'écoles qui s'affirment, et les populations faits nouveaux proposent de participer à la construction des écoles. C'est principalement dans les lieux de traite, donc où les commerçants, ou dans des villages, et là on a un village catholique en particulier, donc près de Bignona, que sont faites ces demandes d'école. Et l'administration y répond favorablement. Pourquoi l'administration y répond favorablement ? Donc je cite l'administrateur supérieur de la Casamance. La création de nouvelles écoles présente un grand intérêt pour notre administration et constitue un excellent moyen de nous rallier les populations dans un pays qui reste actuellement la seule région nécessitant encore le maintien de cercles militaires. Donc on voit des raisons politiques qui font que l'administration répond favorablement à ces demandes. Et entre 1921 et 1923, on a donc 8 nouvelles écoles qui sont ouvertes, et donc on voit cette convergence finalement d'intérêts entre le pouvoir colonial et certaines catégories de la population qui accélère le processus de scolarisation dans la région. Donc je vais rapidement donner un exemple qui est celui de l'école de Soutou. Donc ça c'est des photos que j'avais prises en 2006. On voit, donc là il y a la petite histoire de l'école. En fait c'est un groupe de catéchistes originaires du village qui a sollicité l'administration donc, pour l'ouverture de cette école. Et en fait l'origine, le lien entre l'évangélisation et scolarisation, il est visible à travers ces croix qui sont toujours sur les murs de l'école, qui n'a pas été sans créer de tensions au sein du village et avec les villages voisins, notamment musulmans, qui du coup refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais surtout, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a cette demande d'école qui aboutit à la construction d'une école, mais des problèmes de fréquentation assez importants dans les années 20 et 30, donc qui montrent que ce n'est pas une adhésion collective encore à l'école. Mais aujourd'hui, en fait, on appelle Soutou, donc le village qui est à quelques kilomètres de Bignona, donc la ville principale de la une des villes principales de Casamance. On appelle ce village Petit Paris. Il reste une minute. Donc pour noter que de nombreux intellectuels y ont été formés. Donc je vais aller plus vite. À partir des années 20, on a donc globalement une augmentation du taux de scolarisation, essentiellement des garçons, je reviendrai peut-être rapidement là-dessus, et dans certaines localités où des groupes socioculturels lui sont plutôt favorables. On a à partir des années 30, une nouvelle augmentation du taux de scolarisation. Je vais aller vite. On est à une période de ruralisation de l'enseignement, donc on va privilégier l'enseignement agricole sur l'enseignement général. Et à nouveau, la Casamance va être un peu une terre, un laboratoire pour cet type d'enseignement-là, parce qu'on va considérer que le climat, les terres, le sol y est plus favorable. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc là, on a en quelques années, entre 1930 et 1940, 17 nouvelles écoles qui sont ouvertes dans la région, dont dans les secteurs scolaires de Ziguinchor et de Bignona, et 4 dans le secteur scolaire de Sédio et de Golda. Donc on a une vraie dynamique à l'ouest de la Casamance. Mais ce qui me paraissait intéressant juste à souligner à ce moment-là, c'est que c'est en fait le développement de la scolarisation, il se fait essentiellement dans un canton. Et en fait, quand on regarde à l'échelle du canton, on se rend compte que c'est pas, on ne peut pas limiter cette augmentation de la scolarisation à un désir d'école, puisqu'en fait, il y a un chef de canton qui est extrêmement autoritaire, donc qui va imposer la construction d'écoles. On est dans un contexte de rivalité intervillageoise, notamment sur des questions foncières qui font que les habitants des villages voisins ne veulent pas envoyer leurs enfants dans l'école du village du chef de canton. Et donc c'est dans ce contexte que, là qu'on va avoir une augmentation vraiment importante des effectifs, mais qui ne peut pas être interprétée simplement comme une forme d'adhésion à l'école. Notamment parce qu'en 1946, et là on le voit légèrement, oui, on a Jean Capel disait, qui était recteur de l'Académie d'AOF à ce moment-là, une sorte d'épidémie de désertion scolaire. Et en fait, ce qui correspond à ce moment-là à la mise à la retraite du chef de canton particulièrement autoritaire. Et donc là, on a une baisse des effectifs, mais qui repart tout de suite à partir des années 50. Donc le ralentissement est de courte durée. À partir de 45, donc on a un boom scolaire. On a de nouveau les congrégations religieuses qui construisent des écoles, ceux qu'on appelle aussi les évolués, donc qui sont allés à l'école dans la période précédente, qui ont des nouvelles fonctions politiques qui vont favoriser la scolarisation, et ce qui fait que je suis désolée, j'accélère. Et les investissements de l'État colonial tardifs, donc à travers le fonds d'investissement du FIRDES, qui explique aussi le développement de l'offre scolaire. Et donc on est dans la subdivision de Bignona, donc au nord de la région actuelle de Ziguinchor, à 19% de taux de scolarisation, et alors que dans l'ensemble de l'AOF, on est à 11,5%, donc largement au-dessus. Donc je souligne à nouveau les fortes disparités régionales, géographiques et sexuelles. Donc même si à partir des années 50, on a aussi des congrégations religieuses féminines qui s'installent et donc qui vont favoriser aussi l'enseignement des filles. Donc ce qu'on peut dire sur la période coloniale, c'est qu'on a une offre scolaire plus importante et diversifiée que dans les autres régions du Sénégal, que les groupes sociaux ont progressivement intégrer l'école à leur pratique sociale jusqu'à ce qu'elle devienne un moyen privilégié de reproduction ou de promotion sociale pour une frange de plus en plus importante de la population. Deuxième élément, c'est sur le temps long que les représentations ont évolué et que les possibilités ouvertes par l'école sont apparues et que petit à petit, par à-coup, l'école s'est instituée. Et donc on peut parler presque de malentendu opératoire entre d'un côté un pouvoir qui cherche à asseoir son autorité par l'école et de l'autre des populations qui voient dans l'école un outil d'adaptation aux mutations sociales et économiques qu'ils traversent à ce moment-là. Et c'est ce malentendu opératoire qui est le moteur, disons, du processus de scolarisation en Casamance. Je vais passer donc à la période de l'indépendance, donc rapidement. Donc, donc là, on a oui, donc du coup, le chef de canton très autoritaire, quelques photos en fait de la fin des années 30, donc des écoles rurales, donc un jardin scolaire, le puits de l'école, hop là, les taux de scolarisation. Et voilà, on passe à la deuxième partie, donc école et construction de la nation sénégalaise. Donc pour les nouveaux États indépendants, l'éducation constitue un enjeu social et politique majeur et on observe, comme le disait Géraldine tout à l'heure, des continuités avec la période coloniale. Les structures, dans le cas du Sénégal, la langue d'enseignement aussi et donc le français ne sont pas remises en cause. Il y a des petits débats, mais en fait, Senghor tranche très vite et choisit de garder le français comme langue d'enseignement. Mais aussi des ruptures, donc déjà l'école de l'école postcoloniale et l'école sénégalaise a un tout objectif que celui de l'école coloniale qui n'est pas simplement de former des auxiliaires subalternes et de diffuser la langue française, mais là c'est véritablement de développer une conscience nationale et panafricaine. Et donc, elle doit pour cela être accessible au plus grand nombre. L'école coloniale n'a jamais visé à scolariser l'ensemble des enfants. Donc, l'africanisation des programmes constitue dès lors un enjeu majeur. Et dès le début des années 60, notamment dans certaines disciplines comme l'histoire, on considère que l'histoire particulièrement a un rôle à jouer dans la construction de la nation sénégalaise. Et dès 1962, les programmes de l'école primaire ont été africanisés. C'est l'histoire. Alors, j'ai été assez surprise parce que c'était aussi le cas, mais bon, peut-être qu'on pourra revenir dans la discussion du milieu local qui est enseigné dans les écoles, donc qui diffère dans chaque école. Donc, l'histoire de l'école, l'histoire du village, le folklore. Les élèves devaient d'ailleurs mener des petites enquêtes. Donc, là, on peut réfléchir à la continuité des pratiques avec l'époque coloniale. Mais bon, je n'ai pas trouvé de travaux qui rendent compte de la manière dont ça se passait réellement dans les salles de classe. Et on a aussi l'histoire nationale, donc qui est enseignée là dans toutes les écoles, qui est commune à toutes les écoles, qui sont enseignées. Mais ce qu'on peut faire comme première remarque, c'est que cette histoire enseignée donc, ne joue pas pleinement le rôle de vecteur d'intégration à la nation, puisqu'elle valorise certains héros qui ne sont pas reconnus par tous. Et elle omet une partie, notamment, de l'histoire de certaines parties du Sénégal, et notamment des royaumes casamançais, et ceux de l'Est, donc du Sénégal oriental. Et cet oubli, entre guillemets, est dénoncé par l'abbé Diamakoun, qui sera le leader du mouvement indépendantiste casamançais, qui raconte, qui dit... Donc, il écrit ce manuscrit entre 78 et 82, et ce manuscrit a été publié en 2018, donc cette année. Et donc, il explique que lui, quand il était à l'école, donc il était à l'école au début des années 40, dans une école, dans un pré-séminaire à Carabane, donc, il sort son cahier, il explique que lui, il apprenait l'histoire de la Casamance. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a pourtant aussi un enseignement du milieu local à l'école sénégalaise. Mais lui, il considère que c'est un exemple de l'impérialisme sénégalais et de la négation des cultures casamançaises par le Sénégal indépendant. Ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que effectivement, les programmes d'histoire du primaire et du secondaire reflètent la domination du modèle islamo-wolof central dans le récit national sénégalais. Et d'ailleurs, il y a une thèse qui a été écrite par Abdoul Sow sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire au Sénégal, qui parle de wolofisation, donc de l'ethnie majoritaire au Sénégal, de l'histoire du Sénégal. À partir des années 80, et donc ça correspond un peu au début du mouvement indépendantiste casamançais, on a progressivement un rééquilibrage qui se fait avec l'instauration de figures de la résistance casamançaise à la colonisation dans le récit national sénégalais, Donc, par exemple, on va donner le nom d'une héroïne casamançaise, Alice Tuediata, à un stade, mais bon, à Ziguinchor, donc en Casamance. Mais donc, certaines figures de la résistance casamançaise qui vont être reconnues, disons, à l'échelle nationale et enseignées aussi progressivement à l'école. Donc, par exemple, Alice Tuediata, dont je parlais, c'est à partir de 1987, dans certaines classes pilotes, qu'on va parler d'elle. Et l'enseignement de l'empire du Gabou, donc il y a un empire qui a existé du 15e à la fin du 19e siècle à peu près, qui est l'équivalent au nord de l'empire du Djolof, n'est enseigné qu'à partir de 1998 dans les classes de 5e et de seconde. Mais Abdoul Sow dit que certains enseignants ne l'enseignent pas parce qu'ils n'ont pas les documents qu'il faut pour l'enseigner. Donc l'idée de ce rééquilibrage, il est fait pour contrecarrer le discours sur l'histoire du mouvement indépendantiste. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que effectivement l'histoire de la Casamance est rentrée assez tardivement dans les programmes scolaires sénégalais et de manière assez réduite. Ce qui a pu être, et notamment par les indépendantistes, considéré comme le signe d'un certain désintérêt de l'État pour la région. Autre objectif majeur de la politique scolaire du Sénégal indépendant, c'est d'augmenter le nombre d'élèves scolarisés. Et donc l'État sénégalais investit très massivement dans l'école. L'indépendance a libéré la demande, une demande de scolarisation qui avait été d'une part bridée par la politique scolaire coloniale, mais aussi par les représentations des populations, qui parfois assimilaient l'école à une forme de corvée, à une forme d'impôt, etc. Donc on assiste à une augmentation très rapide des taux de scolarisation pour l'ensemble du Sénégal, entre le début des années 60 et la fin des années 80, on passe de 27% à 60% à peu près. Et l'africanisation de la fonction publique engendre une augmentation du nombre d'emplois dans la fonction publique. Et les Casamançais qui s'étaient particulièrement dirigés vers la fonction publique, donc là, la fonction publique assure donc un emploi aux jeunes diplômés, et particulièrement aux jeunes Casamançais. Mais en fait, en Casamance, et notamment donc dans la partie ouest, le désir d'école dépassait largement les possibilités financières de l'État pour construire les structures d'accueil et former le personnel en nombre suffisant. Donc les populations vont construire elles-mêmes des écoles. Et jusqu'en 2006, même, il y avait le même mouvement avec les collèges d'enseignement moyen. On avait toujours des villages qui construisaient, là, en l'occurrence, des collèges d'enseignement moyen, ou dans les années 70, des écoles. Et on n'a qu'un seul lycée, en fait, en Casamance, jusqu'au début des années 80, qui est celui de Ziguinchor, et qui est donc très vite saturé, et les élèves, sont obligés d'aller dans le nord du Sénégal, à Dakar ou à Saint-Louis. On a malgré tout donc une spécificité régionale, mais une problématique nationale. Et il y a des grèves depuis 1968 dans l'ensemble du Sénégal, dans les collèges, lycées, à l'université, où principalement on dénonce les conditions d'enseignement. Qui sont considérés comme déplorables, et la mauvaise gestion étatique, et notamment le poids de l'héritage colonial sur l'école sénégalaise. Donc on voit que la situation n'est pas spécifique à la Casamance, à la région de Ziguinchor, mais dans la région de Ziguinchor, l'investissement scolaire était plus fort qu'ailleurs, et donc les conséquences ont été plus dramatiques qu'ailleurs. Dans le contexte donc de crise politique, mais aussi de crise économique à partir des années 70, et les plans d'ajustement structurel à partir des années 1980 qui réduisent considérablement le budget de l'État et aggravent encore la situation. Donc je vais pas développer sur le... Je vais en parler vite fait, malgré tout. Fin 1979, début 1980, on a une grève qui éclate dans le lycée Djignabo, qui ne s'appelle pas encore le lycée Djignabo, donc du nom d'un héros casamançais, donc au lycée Ziguinchor, une grève qui éclate pour des raisons matérielles, comme dans la plupart en fait, des, euh, des grèves et le proviseur refuse de négocier. Le proviseur est un Sénégalais du Nord, donc c'est ce que vont pointer en fait les élèves, leur famille, la population progressivement. Et ce qui est au départ une grève scolaire va se transformer en une sorte de siège de la ville de Ziguinchor, notamment par les élèves, et qui vont être renforcés par les familles et par la population de Ziguinchor. Donc on a un affrontement entre les élèves, la police, l'armée, qui vont être violents au point qu'un élève de 5e est tué. Les autorités municipales sont complètement dépassées en fait par ce mouvement-là, et finalement on va faire appel aux femmes et aux associations traditionnelles de femmes pour comme médiatrices, et les revendications sont satisfaites, le proviseur est muté. Et ensuite, en fait, à la fin de la grève, fin janvier 1980, finalement, les autres collèges et lycées du Sénégal prennent la relais, donc ce qui témoigne que le problème, malgré tout, est global. Mais il s'inscrit quand même dans un contexte régional particulier, puisqu'on va demander le départ des nordistes, entre guillemets, que sont le proviseur et le maire de la ville. Pour le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, pour le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, la grève de 1980 est la première manifestation de la volonté d'indépendance des populations de la Casamance. Et ce qui est en tout cas certain, c'est qu'elle constitue la première étape dans la structuration du mouvement indépendantiste, puisque selon Ousseynou Faye, donc un historien de l'université Charenta Diop de Dakar, le séparatisme, je le cite, « le séparatisme casamançais résulterait de la rencontre entre des animateurs du mouvement scolaire de 1980 et des sous-officiers et soldats retraités ou libérés. » Donc j'en arrive à la conclusion. Les demandes d'école des casamançais ne signifiaient pas davantage une adhésion à l'État colonial qu'une volonté d'intégration à l'État sénégalais. La scolarisation engendrait de fait, par contre, effectivement, leur intégration à l'État et développait progressivement, après 60, donc, un sentiment d'appartenance au Sénégal. Or, l'incapacité de l'État à assurer aux populations casamançaises l'accès à l'école et à l'emploi dans la fonction publique, qui était devenu le moyen privilégié de promotion sociale, dans un contexte de multicrise, donc j'ai parlé de crise politique, économique, notamment, au cours des années 70-80, a fragilisé, voire rompu ce lien pour les plus radicaux. C'est ce dont témoignent les revendications nationalistes et séparatistes qui s'expriment au début des années 80. La crise scolaire, ce qu'on appelle la crise scolaire en tout cas, le chômage des jeunes, la baisse de l'emploi public, sont ainsi en partie à l'origine du conflit en Casamance et de sa continuité, puisqu'il n'est toujours pas terminé. Voilà, je vous remercie.